on jase.
Ouais, puis on fait pas juste jaser au micro, Pascal Sévin, hein? On jase en dehors des ondes aussi.
On allait oublier de revenir en ondes, ouais, justement, ça. Parce qu'on
tellement qu'on a du fun avec notre invité Maxime Lapointe, qui est avocat spécialiste.
Ben, je sais pas si c'est du fun.
L'immigration. Ouais, c'est vrai, parce qu'on jase
mon point?
De problème. Ouais, je comprends ton point. Puis Maxime, avant qu'on fasse jouer justement l'extrait pour que les gens se remettent dans le bain de notre entrevue d'hier avec Isabelle, cette immigrante française qui a plein de difficultés, tu nous disais, moi, je fais les médias parce que ça marche, ça fait débloquer des dossiers. Mais comme Pascal disait, puis je trouve qu'elle a raison, elle disait, ouais, mais dis donc, bien plate qu'on ait besoin des médias. Comment ça, le gouvernement n'est pas capable de débloquer des dossiers qu'on devrait débloquer?
Ouais. Ben par où commencer, là?
Ouais, hein? Je sais pas si je m'excuse, c'est une grosse
faire
question,
jouer l'extrait? Non,
mais... Ouais, on va faire jouer l'extrait d'Isabelle et de son dossier hier qu'elle nous expliquait pourquoi, justement, son mari n'a plus de visa de travail. Puis par la suite, Maxime, on te bombarde de questions.
Alors, où j'en suis actuellement? Ça faisait 2 ans que je travaillais dans un salon Place Sainte-Foy. Ils m'ont renouvelé mon visa de travail pour 36 mois. Mais mon mari est plus admissible au rapprochement familial. Donc, pour lui, tout s'est arrêté au 31 mai, alors qu'il avait 2 emplois saisonniers. Un emploi à Bécomo en tant que pompier forestier et un autre en tant que déneigeur à Sainte-Foy.
Et Isabelle, comment qu'on explique le fait qu'on renouvelle pas ton mari, mais que toi, on te renouvelle alors que vous formez une famille?
Eh bien, parce qu'en fait, aujourd'hui, le gouvernement dit que la coiffure manque moins de manœuvres qu'il y a 2 ans quand on est arrivé. Donc, le fait que mon mari, en fait, il manque moins de manœuvres, désolé, en coiffure, mon mari n'a pas pu avoir son renouvellement de visa. Donc, depuis le mois de mai, il ne travaille plus, alors qu'il était à Bécomo le 31 mai. Il avait commencé la saison et puis il a dû rentrer parce que personne n'a voulu renouveler son visa de travail.
418-971-101 pour réagir. Vous avez été énormément à réagir hier. Maxime, comment qu'on fait pour régler la situation d'Isabelle et de son mari?
Ouais, mais il faut comprendre le contexte. La population a demandé au gouvernement, autant du Québec que du Canada, de baisser les volumes d'immigration. Mm-hmm. Le gouvernement du Canada a commencé à s'attarder au problème en juillet 2023. Il y a eu une réunion de députés, de ministres, et il y a eu une série de réformes à partir de 2024. Exemple, un étudiant qui vient avait accès à un permis de travail ouvert pour son conjoint. Là, dans la plupart des diplômes, ça a été retiré à partir de février 2024. Donc, des gens de, disons, 50 ans, des Français qui décident de venir faire un DEP au Québec, puis le conjoint ou la conjointe aura un permis de travail ouvert si on n'en voit plus depuis février 2025. Pour le cas de Mme Isabelle, en janvier 2025, on a fortement restreint les permis de travail ouverts pour les conjoints de travailleurs étrangers. Donc avant, dans les dernières années, on avait soit un poste qui est considéré comme spécialisé ou peu spécialisé. Les deux finissaient par permettre le permis de travail ouvert. Ça avait été élargi beaucoup pendant la COVID. Et là, en janvier 2025, on a une liste de professions et si le poste n'est pas sur la liste et si le permis de travail de la personne qui veut parrainer, disons-le comme ça, son conjoint, sa conjointe, n'est pas valide pour 16 mois, eh bien, on n'a pas accès. Donc, on voit des fois les deux exemples. Maintenant, dans le programme des travailleurs étrangers temporaires, les permis sont limités à 12 mois pour les postes à bas salaire. Donc, tu ne peux pas avoir un permis valide pour 16 mois si tu as un permis de 12 mois. Puis les postes sur la liste, bien, ils sont clairement définis. Puis comme la dame disait, coiffeuse l'est pas. Donc, il y a eu un changement de règles en janvier qui découle du fait que la population a dit qu'il y a trop d'immigrants. Là. Donc, allez-y avec votre question.
Non, c'est un signe que je fais à Jean-François quand on a un complément là, de questions à ce qui se dit en ce moment. Puis on en a un, lui et moi, parce qu'on
Bien
a parlé
sûr.
Hier. On se demande, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir un droit acquis, une clause grand-père là-dedans, ou encore, tu sais, à un moment donné, on l'a fait venir, elle fait les formations pour être coiffeuse parce qu'on a une demande dans ce métier-là, puis 2 ans plus tard, on n'a plus de demande, donc elle n'est même plus éligible pour... Tu sais, les gens qui vont immigrer ici, vont-il falloir qu'ils changent de métier à chaque saison gouvernementale? Il ne peut pas avoir des clauses comme ça où à un moment, tu es arrivé, bien... En plus qu'ils sont intégrés, en plus qu'ils ont un milieu social.
Langue française.
Il manque juste un sapristi de papier, c'est un peu pathétique.
Ah, c'est sûr. Moi, je suis là-dedans tous les jours, donc pour moi, c'est pas si surprenant. Les changements de règles depuis les 18 derniers mois, il y en a plus que 10. On les voit puis on les vit. Là. Il y avait des consultations publiques sur l'immigration pas plus tard que le mois dernier. Moi, j'ai présenté un mémoire, puis dans mes recommandations, il y en avait une qui disait « Le gouvernement devrait avoir un engagement de prévisibilité envers les ressortissants étrangers. » Ça veut dire que les règles pour demander la résidence permanente devraient être les mêmes que au jour où vous êtes arrivé au Québec. Ouais. Donc ça, pour un poste de coiffeur comme ça, le programme de l'expérience québécoise qui a été fermé au mois de juin en cachette pendant que tous les politiciens étaient partis en vacances par décret, ben, s'il y avait une clause grand-père, comme il y a eu lors de la dernière réforme de ce programme-là en juillet 2020, si on disait ben, les gens qui étaient sur le territoire lors de la fermeture ou la suspension du programme en juin ont encore accès, mais cette dame-là aurait éventuellement accès à la résidence permanente et elle pourrait inclure son mari. Là. Parce que de l'autre côté, le permis de travail ouvert, il faut faire attention, c'est quand même un permis d'exception. Là. La règle, c'est un permis de travail qui est lié à un employeur, majoritairement dans le programme des travailleurs étrangers temporaires où le Québec et Service Canada ont compétence. Et dans le cas précis de cette dame-là, où ça devient compliqué, c'est quand on a deux emplois saisonniers, ça peut être chaud pour un employeur de vouloir faire une démarche, sachant qu'on va faire un permis juste pour 6 mois. Attention au terme aussi, quand la dame parle de visa, là, c'est pas un visa, c'est un permis de travail, c'est une feuille de papier. Là. Un visa, c'est étampé dans un passeport, ça permet de voyager quand on a besoin d'un visa, exemple pour un Chinois qui voudrait venir ici. Les Français, eux, voyagent avec une autorisation de voyage électronique. C'est important d'utiliser les bons termes, sinon on perd l'auditoire. Mmh.
Parmi le, tu dis du côté du mari d'Isabelle que le fait qu'il y ait deux emplois à temps partiel, deux emplois saisonniers, c'est-à-dire la sop-feu à l'été et le déneigement à l'hiver, ça serait plus complexe si on l'embarquait dans une clause grand-père?
Bien, dans une clause. Parce que là, une clause grand-père de permis de travail ouvert de réforme de janvier dernier, mm-hmm. j'avoue que j'y crois moins, là, très honnêtement. Une clause grand-père pour la, demander la résidence permanente, parce qu'une manière de sortir d'un statut temporaire, c'est de devenir résident permanent. Et là, on a vu jeudi passé, le ministre de l'Immigration a lancé son plan d'immigration avec les cibles pour 2026. On parle de 45 000 nouveaux résidents permanents. Quand on en a pris autour de 60, 65 000 dans les 3-4 dernières années. Donc, on veut baisser. La manière qu'on va s'y prendre, c'est on va faire attendre les gens plus longtemps entre le stade de la sélection par le Québec puis l'admission par le Canada. Les gens qui sont pris dans la machine, exemple des gens d'affaires, mm-hmm. le Québec dit au Canada, finis-moi 500 dossiers par année, mais il y en a 4 000 pour qui le Québec a dit oui. Donc, moi, j'ai des travailleurs autonomes à Trois-Rivières dans le domaine de la construction qui me disent « Maxime, ça va me prendre 7 ans avant ma résidence permanente. » La réponse est actuellement oui. Et pour baisser à 45 000, aussi, ce qu'on fait, bien, c'est qu'on ferme la porte d'entrée. Et quand on ferme la porte d'entrée dans le programme de l'expérience québécoise depuis le mois de juin, bien, le gouvernement dit comme ça, on va être capable de respecter notre cible à 45 000, pardon. Mais moi, puis ce matin, j'écoutais le commissaire à la langue française qui était à la radio, à Mario Dumont, et lui, il parle du déclin du français, mais là, on est en train de parler d'une famille de Français. Puis s'il y a une qualité ou un défaut des Français de France, c'est qu'ils ne parlent pas anglais. Ils ne parlent aucunement anglais. Donc là, on est en train de dire à ces gens-là, bien, repartez chez vous, puis après, on se plaint que le français est plus utilisé au Québec. Donc, à mon avis, comme vous avez dit, Pascal, clause grand-père pour demander la résidence permanente. Il y avait un reportage hier à TVA super attendrissant d'une famille qui va être obligée de quitter probablement à cause que le programme est fermé. À mon avis, le ministre devrait avoir un petit peu plus d'humanité là-dessus. Là.
Tu sais, je comprends honnêtement qu'on ait des règles, des lois, des façons de faire. C'est très important. Ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. De venir resserrer, puis je pense que ça fait un peu écho à Ruba Gazal qui est venu nous jaser des fois qu'il avait l'impression que le gouvernement prenait ces gens-là pour des pions puis a oublié un petit peu l'humanité derrière. C'est un peu ce que vous nous dites aussi, maître. Mais est-ce qu'on n'a pas oublié justement tout ce qu'on souhaite d'une personne qui vient immigrer ici au Québec, qu'elle s'intègre, qu'elle a un cercle social, qu'elle souhaite travailler, qu'elle souhaite le faire. Je comprends qu'on va faire du cas par cas, on perd beaucoup de temps, mais encore une fois, on passe une loi en immigration puis ça semble pas ficelé. Est-ce que c'est une mauvaise façon de voir les choses? Est-ce que je l'interprète mal?
Actuellement, moi, ce que je dis dans les médias depuis quand même un an, là, c'est qu'en immigration, on déconstruit l'avion en plein vol. Là. Donc, il y a plein de nouvelles règles qui s'additionnent et c'est tout des reculs. Là. Des choses qu'on pouvait faire il y a 2 ans, que, comme je vous ai dit tout à l'heure. Un conjoint d'un étudiant étranger, on ne peut plus. Un conjoint d'un travailleur étranger, ça prend un permis valide pour 16 mois puis un poste sur une liste. Donc, on discrimine beaucoup de gens. La résidence permanente, les programmes fermés, le programme actuellement, le seul programme au Québec pour demander la résidence permanente. Il est sur invitation. Le gouvernement contrôle les critères. Depuis le mois de juillet, ils ont invité 200 personnes à peu près dans un des 4 volets. C'est des petits volumes. Donc, pendant ce temps-là, les immigrants se retrouvent avec un permis de travail qu'ils veulent essayer de prolonger. Les règles ont changé aussi dans le programme des travailleurs étrangers temporaires. Puis, ils ont perdu leur accès à la résidence permanente. Ils se retrouvent échec et mat. Et c'est un peu ce que le gouvernement veut. Quand François Legault dit qu'il y a trop d'immigrants temporaires, puis il mélange les demandeurs d'asile en attente d'une audition de la commission du statut de résidence réfugiés qui déborde. On est à 3 ans minimum. Et des travailleurs en emploi qui ont démontré une pénurie de main-d'œuvre dans leur secteur. C'est là où on fait erreur. On mélange tous les immigrants temporaires. Il y a aussi des étudiants étrangers qui sont venus, qui n'ont jamais étudié une journée, qui ont lâché l'école, qui travaillent dans un restaurant de restauration rapide. Il y en a 150 à Trois-Rivières l'année passée qui ont demandé l'asile.
C'est peut-être là où on devrait un petit peu plus resserrer les règles, parce que c'est des gens qui n'ont pas suivi le pourquoi sont arrivés ici.
Des gens qui travaillent et qui parlent français, on fait tout pour les garder, là, et non l'inverse. Donc, dans les consultations publiques, moi, j'avais une recommandation qui s'appelait de créer un programme qui pourrait s'appeler programme de l'excellence québécoise, c'est-à-dire le niveau de français le plus élevé, le niveau 12, le niveau C2 selon les échelles, peu importe. Vraiment pour cibler des Français de France. Et 12 mois de travail dans peu importe la profession, on pourrait retenir des Français qui arrivent souvent avec un permis vacances-travail, le PVT. Là. Donc, c'est un permis de travail qui est délivré par le Canada. C'est un permis de 2 ans, qui est un permis ouvert, qui permet de travailler n'importe où, mais qui ne se renouvelle pas. Et j'en ai 3 par semaine dans mon bureau qui viennent de prendre des rendez-vous en me disant « Mais mon permis se termine le mois prochain, mon employeur n'a pas de marge de manœuvre dans son 10 % de travailleurs étrangers, ça limite dans le programme des travailleurs étrangers temporaires, ou mon employeur ne veut pas faire la démarche, ou peu importe. » Mais si on pouvait retenir les francophones, parce qu'à mon avis, je pense qu'on peut préserver le déclin du français, puis l'efficacité de l'économie québécoise. On peut faire les deux en même temps. Là.
En effet. Et puis, il n'y a pas un double standard, Maître Lapointe. Et pour rappel, on parle avec Maître Maxime Lapointe, avocat spécialiste en immigration. Et je m'explique du double standard. Pendant qu'on va dire à Isabelle et son conjoint retourner en France, Québec International est au Brésil à recruter.
Oui.
Je la comprends pas, celle-là.
On en avait déjà parlé. En 2023, dans le même exercice de planification pluriannuelle, il y avait des consultations publiques. Je disais à l'ancienne ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, si vous trouvez qu'il y a trop d'immigrants temporaires, arrêtez de dépenser des fonds publics pour aller en chercher.
Ben, c'est ça.
Là, en 2025, ce que je disais dans les médias, c'est le ministre blâme le fameux programme de mobilité internationale, qui est un programme d'immigration pour recruter des travailleurs qui est géré uniquement par le fédéral. Exemple, le PVT, ça en est un. Et le ministre Roberge dit « Ah, il y a trop de dossiers dans le programme mobilité internationale. » On l'appelle le PMI dans le jargon. Mais le CIUS de Lévis, dans sa propre pénurie de main-d'œuvre, utilise le programme fédéral pour recruter dans le domaine de la santé. Donc, ce que le ministre d'immigration comprend peut-être mal, c'est que son propre gouvernement utilise un programme d'immigration fédérale pour recruter des travailleurs pour la pénurie de main-d'œuvre de l'État. Et ça, pour moi, c'est la plus grande incohérence que j'ai vue en 15 ans de pratique. Là, le Québec n'utilise même pas le programme dans lequel il y a compétences pour aller recruter des travailleurs. C'est quand même fort. Et deuxièmement, ces programmes-là servent à quelque chose. Et il y a un double standard, en plus, quand on va, vous l'avez dit, dépenser des fonds publics pour ramener des entreprises, puis quand ils reviennent en disant « Mais finalement, on a changé les règles, ils pourront plus venir, les travailleurs que vous allez sélectionner en mission le mois passé. »
Ben oui, puis tu sais, on parlait tantôt d'avoir 2 emplois à temps partiel, si on veut, ou 2 emplois saisonniers, tiens, pour utiliser les bons termes, soit la sopfeu, puis le déneigement pour le mari d'Isabelle. Il y a quelque chose là aussi, c'est pas n'importe qui ici au Québec qui va faire « Ben oui, moi, je vais prendre 2 emplois saisonniers. » Tu sais, là-dedans, t'as de la précarité, t'as le fait de devoir être entre Baie-Comeau et Québec. C'est, le déneigement, c'est pas
dire.
Facile.
C'est ce que j'allais dire. Puis je vais aller passer tout l'été à Baie-Comeau loin de ma famille. T'sais.
Puis fait, je me dis, tu sais, c'est quand même quelqu'un qui fait un, entre parenthèses, don de soi professionnel. Parce que la précarité vient que l'emploi saisonnier, c'est pas, somme toute, quelque chose que tout le monde va accepter. Fait que tu dis « crime, ce gars-là est engagé, il le fait. » Je comprends pas comment ça peut tomber sur la tête de ce genre, sur ce genre d'immigrants-là.
C'est qu'il y a un changement de discours là, depuis les derniers mois. Là, on est en élection l'automne prochain. Le Parti québécois veut moins d'immigrants. Puis le gouvernement de la Coalition Avenir Québec essaie de se coller genre en disant « Nous aussi, on en veut encore moins que vous. » Donc, qui est-ce qui veut le moins d'immigrants, le PQ puis la CAQ? C'est un peu ça, la question. Parce que, dans le fond, les règles ont changé. Mon adjointe Nadine, dans le bureau, elle est arrivée en 2021. Elle est venue étudier. Puis elle me l'a dit ce matin. Elle m'a dit « Si j'avais su que j'aurais pas eu accès à la résidence permanente parce que le programme Expérience québécoise a fermé au mois de juin, elle dit « Je serais pas venue. » Puis Isabelle, c'est la même chose. Donc, des Français, ou plus largement, n'importe quel ressortissant étranger qui a pris la décision de mettre sa vie dans 2 valises dans les 5 dernières années, sachant qu'on pouvait prolonger un permis, on pouvait avoir un permis pour le conjoint et on pouvait demander la résidence permanente après 2 ans, mais ces gens-là, à mon avis, on n'a pas le choix de garder une clause de droit acquis la plus large possible parce que c'est un peu le contrat social qu'on avait avec eux. Les règles d'immigration, à ce moment-là, étaient les suivantes. Et là, ça devient un peu compliqué de dire « mais finalement, c'est plus ça ». Puis, parce que c'est pas si simple non plus, un immigrant qui repart dans son pays, là, il met des créanciers dans le pétrin aussi. Peut-être qu'il va pas payer son loyer, sa carte de crédit, son prêt d'automobile. Donc, tu sais, à mon avis, de la prévisibilité, c'est ce qu'on aurait eu besoin dans la dernière année. Ça, on a changé beaucoup les règles dans le programme des travailleurs étrangers temporaires. On aurait dû permettre aux entreprises de renouveler toute leur flotte de travailleurs pour 3 ans, puis en disant, OK, c'est comme la dernière fois qu'on vous permet ces règles-là. Ils ont changé, mais on ne vous pénalise pas parce que vous êtes déjà dans la machine. C'est ce qui n'a pas été anticipé par le gouvernement.
Je comprends, et en terminant, Maître Lapointe, je comprends qu'on est allé à la va-vite du côté de la CAQ dans ce dossier-là, en justement permettant pas de la prévisibilité. Et là, est-ce que économiquement et du côté d'une notoriété internationale, ça peut causer des effets pervers au Québec?
Bien là, le problème que je vois, puis j'espère qu'il nous reste un petit peu de temps pour l'aborder, moi, ce que j'ai vu directement quand le ministre a lancé son plan d'immigration, puis j'étais à la télé pour en parler jeudi passé, c'est qu'il y a des gens qui font la publicité des programmes de résidence permanente partout ailleurs au Canada. Donc, il y a le programme Entrée Express pour quelqu'un qui a l'intention de s'établir partout sauf au Québec. Et là, les gens font la promotion en disant « Venez immigrer dans le programme du reste du Canada. » Le Canada va chercher des francophones parce que le Canada a un peu le même problème. Il y a trop d'immigrants temporaires et ils veulent discriminer, entre autres, des Chinois, des Philippins, des Indiens qui ont des permis d'études. Donc, ils vont chercher des francophones. Alors là, ce que moi, je vois dans mon bureau, aux francophones disent « Bien, j'ai appliqué dans le programme disant que j'avais pas l'intention de vivre au Québec. J'ai été approuvé par le programme de l'Ontario, mais finalement, je vis au Québec. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, Maître Lapointe? » Puis là, ça devient compliqué de dire, bien, la charte canadienne prévoit la mobilité dans le pays pour tout résident permanent, donc la charte te protège. Mais de l'autre côté, à mon avis, puis je tiens à le dire sur vos ondes, c'est une fausse déclaration, à mon avis, de dire j'ai l'intention de vivre partout sauf au Québec, puis finalement de rester au Québec. Donc là, ce qu'on voit actuellement, je reviens là-dessus, les gens vont utiliser le programme du fédéral pour vivre partout ailleurs au Canada, mais dans le fond, vont rester au Québec. Alors, Jean-François Roberge, son fameux 45 000 nouveaux immigrants, bien, il n'y aura jamais les vrais chiffres.
Ouais, parce que jamais capable de le contrôler.
Les gens qui vont avoir passé par le fédéral, ils ne sont pas calculés nulle part. J'en avais parlé avec Stéphanie Gramont de la presse, ça fait déjà 2 ans. J'appelle ça des flux migratoires irréguliers. C'est comme dans la catégorie du regroupement familial. Je parraine ma femme mexicaine, exemple, bon, pour avoir la résidence permanente. Les délais de traitement ici sont quasiment 3-4 ans, puis partout ailleurs au Canada sont plus 12-13 mois. Donc, les gens déménagent dans une autre province temporairement, puis après, ils reviennent au Québec. Donc, est-ce qu'on a vraiment rempli l'objectif, là?
Non, vraiment pas. Je pense que poser la question, c'est y répondre. Maître Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration, était avec nous pour parler d'immigration. On se refait ça, Maître Lapointe? C'est très intéressant comme conversation.
Merci.
Cool. Merci infiniment et on va souhaiter le mieux à Isabelle et à son mari. Évidemment, Kevin qui écrit là, par texto, il réagit au 418-971-101. Il dit « Ouais, la CAQ, elle en fait pas mal de va-vite comme ça, de décisions malheureusement qui font pas vraiment de sens. »
Écoute, on exclut Maître Lapointe de nos commentaires parce que c'était son entrevue et nous allons dire des choses que peut-être auxquelles il ne se colle pas, mais là, ça fait plusieurs dossiers dans lesquels c'est du va-vite, c'est du non-ficelé. Si on avait besoin de compétences, si on avait besoin de plus de temps, à un moment donné, à force d'aller vite, je me pose encore la question du pourquoi. Parce que eux, probablement, pensaient faire un gain politique, réussir à sortir des projets avant les élections, mais ils réussissent qu'à sortir du chaos avant les élections. Ouais, ils ne gagnent rien. Bien au contraire, ils montrent une certaine médiocrité politique. Là.
T'as entièrement raison. Ce qui est intéressant avec le cas d'Isabelle et avec plein d'autres cas, justement, qu'on a, notamment une personne là, de nationalité belge dans le domaine de la santé hier, c'est qu'on se rend compte qu'avec les politiques de la CAQ, c'est pas juste de fermer les portes aux demandeurs d'asile ou à l'immigration. C'est qu'on sort du monde qui sont utiles dans notre société, qui payent des impôts, des taxes, comme Maître Lapointe vient de le dire, la carte de crédit, le paiement de voiture, le logement, et on les sort du Québec pour les renvoyer chez eux.
Ouais.
Des gens qui contribuent à notre société, autant par leur travail que par le paiement d'impôts et de taxes.
Oui, puis tu sais, écoute, là, on a eu un commentaire d'un commerçant, OK, pendant l'entrevue. J'ai tellement besoin de mes travailleurs étrangers, c'est hallucinant. Je suis contraint de baisser mes heures d'opération en ce moment. Mon chiffre d'affaires en souffre. Mes coûts fixes ne sont pas moins chers pour autant. Mm-hmm. Et je ne suis pas capable de mener à terme mes opérations. On a besoin de ces gens-là. Pourquoi les renvoyer une fois qu'ils sont bien implantés dans la communauté qu'ils travaillent?
Et voilà. Alors, t'imagines, plein de commerces comme ça, des commerces en région également. On le sait, il y a eu des belles sorties des chambres, des différentes chambres de commerce
versus
et d'industrie.
Aller voir ou est-ce qu'on n'a pas respecté le pourquoi on est arrivé puis qu'est-ce qu'on a signé entre parenthèses auparavant, si c'était pour les études, etc. Ouais. C'est là où ça ne s'est pas bien fait, pas bien ficelé.
Du tout. Et pendant ce temps-là, bien, on continue d'aller recruter à l'extérieur avec nos organismes gouvernementaux.
Oui, exactement. Jeff, permets-moi de redire encore une fois la fermeture du district.
Bien sûr.
On a fait l'annonce il y a une heure environ, là, mais... Là, le district Saint-Joseph, excusez-moi, c'est parce que je vois que nos collègues nous l'envoient aussi, mais on était sur la nouvelle, c'est correct. De 2015 à 2025, c'est terminé pour le district Saint-Joseph, institution en fait de festivité du côté de Saint-Joseph après 10 ans à faire vibrer ce lieu-là. On annonce officiellement sur la page Facebook que le renouvellement de bail les a fait réfléchir, puis on a décidé justement de baisser le rideau. Alors, la dernière soirée au district Saint-Joseph, ce sera le 31 décembre.
Alors, participez-y en grand nombre et allez saluer cette institution là, qui a fait vraiment le bonheur des gens de Saint-Roch et qui a participé au renouveau de Saint-Roch. Pascal, après la pause, on va parler avec Rémi Villemur, qui est chroniqueur ici à l'émission On en jase les mardis et jeudis aux alentours de 13h, également animateur au 99.5 Montréal. Il veut revenir sur la polémique BBC-Donald Trump. Montage, un faux montage où on a pris des paroles de Donald Trump séparées de 54 minutes. On a fait jouer ça sur BBC. Et là, bien, il y a deux têtes dirigeantes qui ont payé le prix. Donald Trump dit « Je vais poursuivre la BBC ». Donc, on va jaser de ça avec Rémi Villemur. Est-ce qu'on a encore des vrais journalistes, Pascal, dans nos institutions?
Ça, c'est une question, mais aussi à quel point l'intelligence artificielle peut être mêlante?
Tellement.
Pour moi, ça me fait bien peur.
C'est une excellente remarque, Pascal. C'est bon, on parle de tout ça après cette courte pause à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase.